Chapitre 9. Retour à la ferme. Pitou garde-malade, Pitou confident. Tandis que Marie-Antoinette rouvre à l'espérance son cœur tout endolori et oublie un instant les souffrances de la femme en s'occupant du statut de la reine, tandis que Mirabeau, comme l'athlète Alcidamas, rêve de soutenir à lui seul la voûte de la monarchie près de s'écrouler et qui menace de l'écraser en s'écroulant, ramenons le lecteur, fatigué de tant de politique, vers des personnages plus humbles et des horizons plus frais. Nous avons vu quelle crainte soufflée par Pitou au cœur du Billot pendant le second voyage du Lafayette d'Aramon dans la capitale rappelait le fermier à la ferme, ou plutôt le père près de sa fille. Ses inquiétudes n'étaient point exagérées. Le retour avait lieu le surlendemain de la fameuse nuit où s'était passé le triple événement de la fuite de Sébastien Gilbert, du départ du vicomte Isidore de Charny et de l'évanouissement de Catherine sur le chemin de Villers-Cotterêts à Pisseleu. Dans un autre chapitre de ce livre, nous avons raconté comment Pitou, après avoir rapporté Catherine à la ferme, après avoir appris d'elle au milieu des larmes et des sanglots que l'accident qui venait de la frapper avait été causé par le départ d'Isidore, était revenu à Aramon, écrasé sous le poids de cet aveu, et en rentrant chez lui, avait trouvé la lettre de Sébastien et était immédiatement parti pour Paris. À Paris, nous l'avons vu, attendant le docteur Gilbert et Sébastien avec une telle inquiétude qu'il n'avait pas même songé à parler à Billot de l'événement de la ferme. Ce n'est que lorsqu'il avait été rassuré sur le sort de Sébastien, et voyant revenir celui-ci rue Saint-Honoré avec son père, ce n'est que lorsqu'il avait appris de la bouche même de l'enfant les détails de son voyage, et comme quoi, ayant rencontré le vicomte Isidore, il avait été amené en croupe à Paris, qu'il s'était souvenu de Catherine, de la ferme et de la mère Billot, et qu'il avait parlé de la mauvaise récolte, des pluies continuelles et de l'évanouissement de Catherine. Nous avons dit que c'était cet évanouissement qui avait tout particulièrement frappé Billot et l'avait déterminé à demander à Gilbert un congé que celui-ci lui avait accordé. Tout le long du chemin, Billot avait interrogé Pitou sur cet évanouissement, car il aimait bien sa ferme, le digne fermier, il aimait bien sa femme, le bon mari, mais ce qu'il aimait par-dessus toute chose, c'était sa fille Catherine. Et cependant, grâce à ses invariables idées d'honneur, à ses invincibles principes de probité, cet amour, dans l'occasion, l'eût rendu juge aussi inflexible qu'il était tendre père. Interrogé par lui, Pitou répondait. Il avait trouvé Catherine en travers du chemin, muette, immobile, inanimée. Il l'avait crue morte. Il l'avait désespérée, soulevée dans ses bras, posée sur ses genoux. Puis bientôt, il s'était aperçu qu'elle respirait encore et l'avait emportée tout courant à la ferme où il l'avait, avec l'aide de la mère Billot, couchée sur son lit. Là, tandis que la mère Billot se lamentait, il lui avait brutalement jeté de l'eau au visage. Cette fraîcheur avait fait rouvrir les yeux à Catherine, ce que, voyant, ajoutait Pitou, il avait jugé que sa présence n'était plus nécessaire à la ferme et s'était retiré chez lui. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui avait rapport à Sébastien, le père Billot en avait entendu le récit une fois et ce récit lui avait suffi. Il en résultait que, revenant sans cesse à Catherine, Billot s'épuisait en conjectures sur l'accident qui lui était arrivé et sur les causes probables de cet accident. Ces conjectures se traduisaient en questions adressées à Pitou, questions auxquelles Pitou répondait diplomatiquement « je ne sais pas ». Et il y avait du mérite à Pitou à répondre « je ne sais pas » car Catherine, on se le rappelle, avait eu la cruelle franchise de lui tout avouer et par conséquent Pitou savait. Il savait que, le cœur brisé par l'adieu d'Isidore, Catherine s'était évanouie à la place où il l'avait trouvée. Mais voilà ce que, pour tout l'or du monde, il n'eût jamais dit au fermier. C'est que, par comparaison, il s'était laissé prendre d'une grande pitié pour Catherine. Pitou aimait Catherine, il l'admirait surtout. Nous avons vu, en temps et lieu, combien cette admiration et cet amour mal apprécié, et surtout mal récompensé, avaient amené de souffrance dans le cœur et de transport dans l'esprit de Pitou. Mais ces transports, si exaltés qu'ils fussent, ces douleurs, si aiguës qu'il les eût ressenties, tout en causant à Pitou des serrements d'estomac qui avaient été parfois jusqu'à reculer d'une heure et même de 2 heures son déjeuner et son dîner, ces transports et ces douleurs, disons-nous, n'avaient jamais été jusqu'à la défaillance et l'évanouissement. Donc Pitou se posait ce dilemme, plein de raison, qu'avec son habitude de logique, il divisait en 3 parties. Si Mademoiselle Catherine aime Monsieur Isidore à s'évanouir quand il la quitte, elle l'aime donc Monsieur Isidore plus que je ne l'aime, elle, Mademoiselle Catherine, puisque je ne me suis jamais évanoui en la quittant. Puis, de cette première partie, il passait à la seconde et se disait, si elle l'aime plus que je ne l'aime, elle doit donc avoir souffert encore plus que je n'ai souffert. En ce cas, elle souffre beaucoup. D'où il passait à la 3e partie de son dilemme, c'est-à-dire à la conclusion, conclusion d'autant plus logique que, comme toute bonne conclusion, elle se rattachait à l'exorde. Et, en effet, elle souffre plus que je ne souffre, puisqu'elle s'évanouit, et que je ne m'évanouis pas. De là, cette grande pitié qui rendait Pitou muet vis-à-vis de Billot à l'endroit de Catherine, mutisme qui augmentait les inquiétudes de Billot, lesquelles, au fur et à mesure qu'elles augmentaient, se traduisaient plus clairement par les coups de fouet que le digne fermier appliquait sans relâche et à tour de bras sur les reins du cheval qu'il avait pris en location à Dampmartin. Si bien qu'à 4 heures de l'après-midi, le cheval, la carriole et les 2 voyageurs qu'elle contenait s'arrêtèrent devant la porte de la ferme où les aboiements des chiens signalèrent bientôt leur présence. À peine la voiture fut-elle arrêtée que Billot sauta à terre et entra rapidement dans la ferme. Mais un obstacle auquel il ne s'attendait pas se dressa sur le seuil de la chambre à coucher de sa fille. C'était le docteur Raynal, dont nous avons déjà eu, ce nous semble, l'occasion de prononcer le nom dans le cours de cette histoire, lequel déclara que, dans l'état où se trouvait Catherine, toute émotion non seulement était dangereuse, mais encore pouvait être mortelle. C'était un nouveau coup qui frappait Billot. Il savait le fait de l'évanouissement, mais du moment que Pitou avait vu Catherine rouvrir les yeux et revenir à elle, il n'avait plus été préoccupé, si l'on peut s'exprimer ainsi, que des causes et des suites morales de l'événement. Et voilà que le malheur voulait que, outre les causes et les suites morales, il y eût un résultat physique. Ce résultat physique était une fièvre cérébrale qui s'était déclarée la veille au matin et qui menaçait de s'élever au plus haut degré d'intensité. Le docteur Raynal était occupé à combattre cette fièvre cérébrale par tous les moyens qu'employaient en pareil cas les adeptes de l'ancienne médecine, c'est-à-dire par les saignées et les synapismes. Mais ce traitement, si actif qu'il fût, n'avait fait jusque-là que côtoyer, pour ainsi dire, la maladie. La lutte venait de s'engager à peine entre le mal et le remède. Depuis le matin, Catherine était en proie à un violent délire. Et sans doute, dans ce délire, la jeune fille disait d'étranges choses, car sous prétexte de lui épargner des émotions, le docteur Raynal avait déjà éloigné d'elle sa mère, comme il tentait en ce moment d'éloigner son père. La mère Billot était assise sur un escabeau dans les profondeurs de l'immense cheminée. Elle avait la tête enfoncée entre ses mains et semblait étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle. Cependant, insensible au bruit de la voiture, aux aboiements des chiens, à l'entrée de Billot dans la cuisine, elle se réveilla quand la voix de celui-ci, discutant avec le docteur, alla chercher sa raison, noyée au fond de sa sombre rêverie. Elle leva la tête, ouvrit les yeux, fixa son regard hébété sur Billot et s'écria « Eh, c'est notre homme !» Et, se levant, elle alla, toute trébuchante et les bras étendus, se jeter contre la poitrine de Billot. Celui-ci la regarda d'un air effaré, comme s'il la reconnaissait à peine. « Eh ! » demanda-t-il, la sueur de l'angoisse au front, « que se passe-t-il donc ici ?»« Il se passe, dit le docteur Raynal, que votre fille a ce que nous appelons une méningite aiguë. » Et que, lorsqu'on a cela, de même qu'il ne faut prendre que certaines choses, il ne faut voir que certaines personnes. Mais, demanda le père Billot, est-ce que c'est dangereux, cette maladie-là, monsieur Rénal? Est-ce que l'on en meurt?
On meurt de toutes les maladies quand on est mal soigné, mon cher monsieur Billot. Mais laissez-moi soigner votre fille à ma façon, et elle n'en mourra pas.
Bien vrai, docteur.
Je répondais, mais il faut que d'ici à 2 ou 3 jours, il n'y ait que moi et les personnes que j'indiquerai qui puissent entrer dans sa chambre.
Billot poussa un soupir, on le crut vaincu, mais tentant un dernier effort, « Ne puis-je du moins la voir ?» demanda-t-il du ton d'un enfant qui eût demandé une dernière grâce.
« Et si vous la voyez, si vous l'embrassez, me laisserez-vous 3 jours tranquille sans rien demander de plus ?»«
Ah, je vous le jure, docteur !»«
Eh bien, venez !» Il ouvrit la porte de la chambre de Catherine, et le père Billot put voir la jeune fille, le front ceint d'un bandeau, trempé dans de l'eau glacée, l'œil égaré, le visage ardent de fièvre. Elle prononçait des paroles entrecoupées, et quand Billot posa ses lèvres pâles et tremblantes sur son front humide, il lui sembla, au milieu de ces paroles incohérentes, saisir le nom d'Isidore. Sur le seuil de la porte de la cuisine se groupaient la mère Billot, les mains jointes, et Pitou se soulevant sous la pointe de ses longs pieds pour regarder par-dessus l'épaule de la fermière, et 2 ou 3 jourdaniers qui, se trouvant là, étaient curieux de voir par eux-mêmes comment allait leur jeune maîtresse. Fidèle à sa promesse, le père Billot se retira lorsqu'il eut embrassé son enfant. Seulement il se retira le sourcil froncé, le regard sombre, et en murmurant « Allons, allons, je vois bien qu'en effet, il était temps que je revinsse. » Et il rentra dans la cuisine, où sa femme le suivit machinalement, et où Pitou allait les suivre, quand le docteur le tira par le bas de la veste et lui dit « Ne quitte pas la ferme, j'ai à te parler. » Pitou se retourna, tout étonné, et allait s'enquérir auprès du docteur à quelle chose il pouvait être bon, lorsque celui-ci, mystérieusement et en signe de silence, mit le doigt sur sa bouche. Et Pitou demeura donc debout dans la cuisine, à l'endroit même où il était, simulant d'une façon plus grotesque que poétique ces dieux antiques qui, les pieds pris dans la pierre, marquaient aux particuliers la limite de leur champ. Au bout de 5 minutes, la porte de la chambre de Catherine se rouvrit, et l'on entendit la voix du docteur appelant Pitou. « Hein ?» fit celui-ci, tiré du plus profond du rêve où il paraissait plongé. « Que me voulez-vous, monsieur Rénal ? Viens aider madame Clément à tenir Catherine, pendant que je vais la saigner 1/3 fois. »«
1/3 fois ?» murmura la mère Billot. « Il va saigner mon enfant pour la 3e fois. Oh, mon Dieu, mon Dieu !»«
Femme, femme !» murmura Billot d'une voix sévère. « Tout cela ne serait point arrivé si vous aviez mieux veillé sur votre enfant. » Et il rentra dans sa chambre, d'où il était absent depuis 3 mois, tandis que Pitou, élevé au rang d'élève en chirurgie par le docteur Rénal, entrait dans celle de Catherine. Pitou était fort étonné d'être bon à quelque chose au docteur Rénal, mais il eût été bien plus étonné encore si celui-ci lui eût dit que c'était plutôt un secours moral qu'un secours physique qu'il attendait de lui auprès de la malade. En effet, le docteur avait remarqué que, dans son délire, Catherine accolait presque toujours le nom de Pitou à celui d'Isidore. C'était, on s'en souviendra, les 2 dernières figures qui avaient dû rester dans l'esprit de la jeune fille. Isidore, quand elle avait fermé les yeux, Pitou, quand elle les avait rouverts. Cependant, comme la malade ne prononçait pas ces 2 noms avec le même accent, et que le docteur Rénal, non moins observateur que son illustre homonyme, l'auteur de l'histoire philosophique des 2 Indes, s'était promptement dit à lui-même qu'entre ces 2 noms, Isidore de Charny et Ange Pitou, prononcés avec un accent différent, mais cependant expressif par une jeune fille, le nom d'Ange Pitou devait être celui de l'ami, et celui d'Isidore de Charny le nom de l'amant, non seulement il n'avait vu aucun inconvénient, mais encore il avait vu un avantage à introduire près de la malade un ami avec qui elle put parler de son amant. Car pour le docteur Rénal, et quoique nous ne voulions rien lui ôter de sa perspicacité, nous nous hâterons de dire que c'était chose facile. Car pour le docteur Rénal, tout était clair comme le jour, et il n'avait eu, comme dans ces causes où les médecins font de la médecine légale, qu'à grouper les faits pour que la vérité tout entière apparût à ses yeux. Tout le monde savait, à Villers-Cotterêts, que dans la nuit du 5 au 6 octobre, Georges de Charny avait été tué à Versailles, et que, dans la soirée du lendemain, son frère Isidore, mandé par le comte de Charny, était parti pour Paris. Or, Pitou avait trouvé Catherine évanouie sur le chemin de Boursonne à Paris. Il l'avait rapporté, sans connaissance, à la ferme. À la suite de cet événement, la jeune fille avait été prise de la fièvre cérébrale. Cette fièvre cérébrale avait amené le délire. Dans ce délire, elle s'efforçait de retenir un fugitif, et ce fugitif, elle l'appelait Isidore. On voit donc que c'était chose facile au docteur de deviner le secret de la maladie de Catherine, qui n'était autre que le secret de son cœur. Dans cette conjoncture, le docteur s'était fait ce raisonnement. Le premier besoin d'un malade pris par le cerveau est le calme. Qui peut amener le calme dans le cœur de Catherine, c'est d'apprendre ce qu'est devenu son amant. À qui peut-elle demander des nouvelles de son amant? À celui qui peut en avoir. Et quel est celui qui peut en avoir? Pitou, qui arrive de Paris. Le raisonnement était à la fois simple et logique. Aussi, le docteur l'avait-il fait sans effort. Cependant, ce fut bien à l'office d'aide de chirurgien qu'il occupa d'abord Pitou. Seulement, pour cet office, il eût parfaitement pu se passer de lui, attendu que c'était non pas une saignée à faire, mais simplement l'ancienne à rouvrir. Le docteur tira doucement le bras de Catherine hors du lit, enleva le tampon qui comprimait la cicatrice, écarta des deux pouces les chairs mal jointes, et le sang jaillit. En voyant ce sang pour lequel il eût avec joie donné le sien, Pitou sentit les forces lui manquer. Il alla s'asseoir dans le fauteuil de Madame Clément, les mains sur ses genoux, sanglotant, et à chaque sanglot, tirant du fond de son cœur ces mots « Oh, mademoiselle Catherine, pauvre mademoiselle Catherine !» Et à chacun de ces mots, il se disait mentalement à lui-même, par ce double travail de l'esprit qui opère à la fois sur le présent et sur le passé, « Oh, bien certainement qu'elle aime Monsieur Isidore plus que je ne l'aime moi-même. Ah, bien certainement qu'elle souffre plus que je n'ai jamais souffert, puisqu'on est obligé de la saigner parce qu'elle a la fièvre cérébrale et le délire. Ah, deux choses fort désagréables à avoir et que je n'ai jamais eues. » Et, tout en tirant de nouvelles palettes de sang à Catherine, le docteur Rénal, qui ne perdait pas de vue Pitou, se félicitait d'avoir si bien deviné que la malade avait en lui un ami dévoué. Comme l'avait pensé le docteur, cette petite émission de sang calma la fièvre, les artères des tempes battirent plus doucement, la poitrine se dégagea, la respiration qui était sifflante redevint douce et égale. Le pouls tomba de 110 pulsations à 85 et tout indiqua pour Catherine une nuit assez tranquille. Le docteur Rénal respira donc à son tour. Il fit à Madame Clément les recommandations nécessaires et, entre autres, cette recommandation étrange de dormir 2 ou 3 heures tandis que Pitou veillerait à sa place et, faisant signe à Pitou de le suivre, il rentra dans la cuisine. Pitou suivit le docteur, qui trouva la mère Biot ensevelie dans l'ombre du manteau de la cheminée. La pauvre femme était tellement abasourdie qu'à peine put-elle comprendre ce que lui disait le docteur. C'était cependant de bonnes paroles pour le cœur d'une mère. « Allons, allons, du courage, mère Biot, dit le docteur, cela va aussi bien que cela peut aller. » La bonne femme sembla revenir d'un autre monde. Oh, cher monsieur Rénal, est-ce bien vrai ce que vous dites là? Oui, la nuit ne sera pas mauvaise, ne vous inquiétez pas. Pourtant, si vous entendiez encore quelques cris dans la chambre de votre fille, surtout n'y entrez pas. Oh, mon Dieu, dit la mère Biot avec un accent de profonde douleur. C'est bien triste qu'une mère ne puisse pas entrer dans la chambre de sa fille. « Que voulez-vous ? Dit le docteur. « C'est ma prescription absolue. Ni vous, ni monsieur Biot. »« Mais qui donc va avoir soin de ma pauvre enfant ? Soyez tranquille. Vous avez pour cela Madame Clément et Pitou. »« Comment, Pitou ? Oui, Pitou. J'ai reconnu en lui tout à l'heure d'admirables dispositions à la médecine. Je l'emmène à Villers-Cotterêts, où je vais faire préparer une potion par le pharmacien. Pitou rapportera la potion, Madame Clément la fera prendre à la malade, cuillerée par cuillerée, et s'il survenait quelque accident, Pitou, qui veillera Catherine avec Madame Clément, prendrait ses longues jambes à son cou et serait chez moi en 10 minutes. N'est-ce pas, Pitou ?
En 5, Monsieur Rénal, dit Pitou, avec une confiance en lui-même qui ne devait laisser aucun doute dans l'esprit de ses auditeurs.
« Vous voyez, Madame Billot, dit le docteur Rénal.
Eh bien, soit, dit la mère Billot, cela ira ainsi. Seulement, dites un mot de votre espoir au pauvre père.
Où est-il ? Demanda le docteur.
Ici, dans la chambre à côté.
Inutile, dit une voix du seuil de la porte, j'ai tout entendu.
Et en effet, les trois interlocuteurs qui se retournèrent en tressaillant à cette réponse inattendue virent le fermier, pâle et debout, dans l'encadrement de la porte.
Puis, comme si c'eût été tout ce qu'il avait à écouter et à dire, Billot rentra chez lui, ne faisant aucune observation sur les arrangements pris pour la nuit par le docteur Rénal.
Puis tout tint parole. Au bout d'un quart d'heure, il était de retour avec la potion calmante, ornée de son étiquette et assurée par le cachet de maître Paquenot, docteur pharmacien de père en fils à Villers-Cotterêts.
Le messager traversa la cuisine et entra dans la chambre de Catherine, non seulement sans empêchement aucun, mais encore sans autre allocution faite de la part de personne que ces mots qui lui furent adressés par Madame Billot.
« Ah, c'est toi, Pitou !»
Et sans autre réponse de lui que celle-ci.
« Oui, Mame Billot !»
Catherine dormait, comme l'avait prévu le docteur Rénal, d'un sommeil assez calme. Auprès d'elle, étendue dans un grand fauteuil et les pieds sur les chenets, se tenait la garde-malade, en proie à cet état de somnolence particulier à cette honorable classe de la société, qui, n'ayant pas le droit de dormir tout à fait, ni la force de rester bien éveillée, semble comme ces âmes à qui il est défendu de descendre jusqu'aux Champs-Élysées, et qui, ne pouvant remonter jusqu'au jour, erre éternellement sur les limites de la veille et du sommeil. Elle reçut, dans cet état de somnambulisme qui lui était habituel, le flacon des mains de Pitou, le déboucha, le posa sur la table de nuit, et plaça tout auprès la cuillère d'argent, afin que la malade attendît le moins longtemps possible à l'heure du besoin. Puis elle alla s'étendre sur son fauteuil. Quant à Pitou, il s'assit sur le rebord de la fenêtre pour voir Catherine tout à son aise. Ce sentiment de miséricorde qu'il avait pris en songeant à Catherine n'avait pas, comme on le comprend bien, diminué en la voyant. Maintenant qu'il lui était permis, pour ainsi dire, de toucher le mal du doigt et de juger quel terrible ravage pouvait faire cette chose abstraite qu'on appelle l'amour, il était plus que jamais disposé à sacrifier son amour à lui qui lui paraissait de si facile composition auprès de cet amour exigeant, fiévreux, terrible dont lui semblait atteinte la jeune fille. Ses pensées le mettaient insensiblement dans la disposition d'esprit où il avait besoin d'être pour favoriser les plans du docteur Rénal. En effet, le brave homme avait pensé que le remède dont aurait surtout besoin Catherine était ce tonique qu'on appelle un confident. Ce n'était peut-être pas un grand médecin, mais c'était à coup sûr, comme nous l'avons dit, un grand observateur que le docteur Rénal. Une heure environ après la rentrée de Pitou, Catherine s'agita, poussa un soupir et ouvrit les yeux. Il faut rendre cette justice à Madame Clément qu'au premier mouvement qu'avait fait la malade, elle était debout près d'elle, balbutiant
« Me voilà, mademoiselle Catherine, que désirez-vous ? »
« J'ai soif, murmura la malade, revenant à la vie par une douleur physique et au sentiment par un besoin matériel. » Madame Clément versa dans la cuillère quelques gouttes du calmant apporté par Pitou, introduisit la cuillère entre les lèvres sèches et les dents serrées de Catherine, qui machinalement avala la liqueur adoucissante. Puis Catherine retomba la tête sur son oreiller, et Madame Clément, satisfaite de la conviction d'un devoir rempli, alla s'étendre de nouveau sur son fauteuil. Pitou poussa un soupir, il croyait que Catherine ne l'avait même pas vu. Pitou se trompait,
quand il avait aidé Madame Clément à la soulever en buvant les quelques gouttes de breuvage et en se laissant retomber sur son oreiller, Catherine avait entrouvert les yeux et, de ce regard morbide qui avait glissé entre ses paupières, elle avait cru apercevoir Pitou. Mais, dans le délire de la fièvre qui la tenait depuis 3 jours, elle avait vu tant de fantômes qui n'avaient fait qu'apparaître et s'évanouir, qu'elle traita Pitou, le Pitou réel, comme un Pitou fantastique. Le soupir que venait de pousser Pitou n'était donc pas tout à fait exagéré. Cependant, l'apparition de cet ancien ami, pour lequel Catherine avait été parfois si injuste, avait fait sur la malade une impression plus profonde que les précédentes, et, quoiqu'elle restât les yeux fermés, il lui semblait, avec un esprit du reste plus calme et moins fiévreux, voir devant elle le brave voyageur que le fil si souvent brisé de ses idées lui représentait comme étant près de son père à Paris. Il en résulta que, tourmenté de l'idée que cette fois Pitou était une réalité et non une évocation de sa fièvre, elle rouvrit timidement les yeux et chercha si celui qu'elle avait vu était toujours à la même place. Il va sans dire qu'il n'avait pas bougé. En voyant les yeux de Catherine se rouvrir et s'arrêter sur lui, le visage de Pitou s'était illuminé. En voyant ses yeux se reprendre à la vie et à l'intelligence, Pitou étendit les bras. « Pitou !» murmura la malade. « Mademoiselle Catherine !» s'écria Pitou. « Hein ?» fit Madame Clément en se retournant. Catherine jeta un regard inquiet sur la garde malade et laissa retomber avec un soupir sa tête sur l'oreiller. Et Pitou devina que la présence de Madame Clément gênait Catherine. Il alla à elle. « Madame Clément, lui dit-il tout bas, ne vous privez pas de dormir. Vous savez bien que M. Rénal m'a fait rester pour veiller Mademoiselle Catherine et afin que vous puissiez prendre un instant de repos pendant ce temps-là. »« Ah oui, c'est vrai, dit Madame Clément. » Et en effet, comme si elle n'eût attendu que cette permission, la brave femme s'affaissa dans son fauteuil, poussa un soupir à son tour et, après un instant de silence, indiqua, par un ronflement timide d'abord, mais qui, s'enhardissant de plus en plus, finit au bout de quelques minutes par dominer entièrement la situation, qu'elle entrait à pleine voile dans le pays enchanté du sommeil qu'elle ne parcourait ordinairement qu'en rêve. Catherine avait suivi le mouvement de Pitou avec un certain étonnement, et, avec l'acuité particulière aux malades, elle n'avait pas perdu un mot de ce que Pitou avait dit à Madame Clément. Et Pitou demeura un instant près de la garde malade, comme pour s'assurer que son sommeil était bien réel. Puis, lorsqu'il n'eut plus de doute à cet égard, il s'approcha de Catherine en secouant la tête et laissant tomber ses bras. « Ah, mademoiselle Catherine, dit-il, je savais bien que vous l'aimiez, mais je ne savais pas que vous l'aimiez tant que cela. » Pitou prononça ces paroles de telle façon que Catherine y put voir tout à la fois l'expression d'une grande douleur et la preuve d'une grande bonté. Ces deux sentiments émanés en même temps du cœur du brave garçon qui la regardait d'un œil si triste touchèrent la malade à un degré égal. Tant qu'Isidore avait habité Boursonne, tant qu'elle avait senti son amant à 3/4 de lieue d'elle, tant qu'elle avait été heureuse enfin, Catherine, sauf quelques petites contrariétés soulevées par la persistance de Pitou à l'accompagner dans ses courses, sauf quelques légères inquiétudes causées par certains paragraphes des lettres de son père, Catherine, disons-nous, avait enfoui son amour en elle-même, comme un trésor dont elle se serait bien gardée de laisser tomber la moindre obole dans un autre cœur que le sien. Mais Isidore partit, mais Catherine esselée, mais le malheur se substituant à la félicité, la pauvre enfant cherchait en vain un courage égal à son égoïsme, et elle comprenait qu'il y aurait pour elle un grand soulagement à rencontrer quelqu'un avec qui elle put parler du beau gentilhomme qui venait de la quitter, sans rien avoir pu lui dire de positif sur l'époque de son retour. Or, elle ne pouvait parler d'Isidore ni à Madame Clément, ni au docteur Rénal, ni à sa mère, et elle souffrait vivement d'être condamnée à ce silence, quand tout à coup, au moment où elle s'en doutait le moins, la Providence mettait devant ses yeux qu'elle venait de rouvrir à la vie et à la raison un ami dont elle n'avait pu douter un instant lorsqu'il s'était tu, mais dont elle ne pouvait plus douter aux premières paroles qu'il prononçait. Aussi, à ces mots de compassion, si péniblement échappés au cœur du pauvre neveu de la tante Angélique, Catherine répondit-elle sans chercher le moins du monde à cacher ses sentiments. « Ah, monsieur Pitou, je suis bien malheureuse, allez !» Dès lors, la digue était rompue d'un côté et le courant établi de l'autre. « En tout cas, mademoiselle Catherine, continua Pitou, quoique ça ne me fasse pas grand plaisir de parler de monsieur Isidore, si ça doit vous être agréable, je puis vous donner de ses nouvelles. »«
Toi ? » demanda Catherine.
« Oui, moi, dit Pitou.
Tu l'as donc vu ?»«
Non, mademoiselle Catherine, mais je sais qu'il est arrivé en bonne santé à Paris. »
« Et comment sais-tu cela ? » demanda-t-elle, le regard tout brillant d'amour.
Ce regard fit pousser un gros soupir à Pitou, mais il n'en répondit pas moins avec sa conscience ordinaire. « Je sais cela, mademoiselle, par mon jeune ami Sébastien Gilbert, que monsieur Isidore a rencontré de nuit un peu au-dessus de la fontaine Auclair et qu'il a amené en croupe à Paris. » Catherine fit un effort, se souleva sur son coude et, regardant Pitou,
« Ainsi, demanda vivement Catherine, il est à Paris ?»«
C'est-à-dire, objecta Pitou, il ne doit plus y être à présent. »«
Et où doit-il être ?» fit languissamment la jeune fille.
« Je ne sais pas. Ce que je sais seulement, c'est qu'il devait partir en mission pour l'Espagne ou pour l'Italie. »
Catherine, à ce mot « partir », laissa retomber sa tête sur son oreiller avec un soupir qui fut bientôt suivi d'abondantes larmes.
« Mademoiselle, dit Pitou, à qui cette douleur de Catherine brisait le cœur, si vous tenez absolument à savoir où il est, je puis m'en informer.
À qui ? Demanda Catherine.
À monsieur le docteur Gilbert, qu'il avait quitté aux Tuileries. Ou bien encore, si vous aimez mieux, ajouta Pitou, voyant que Catherine secouait la tête en signe de remerciement négatif, je puis retourner à Paris et prendre des renseignements. Oh, mon Dieu, ce sera bien vite fait, c'est l'affaire de 24 heures.
Catherine étendit sa main fiévreuse et la présenta à Pitou, qui, ne devinant pas la faveur qui lui était accordée, ne se permit pas de la toucher.
Eh bien, monsieur Pitou, lui demanda Catherine en souriant, est-ce que vous avez peur d'attraper ma fièvre ?
Oh, excusez, mademoiselle Catherine, dit Pitou,
passant la main moite et humide de la jeune fille entre ses deux grosses mains.
C'est que je ne comprenais pas, voyez-vous. Ainsi, vous acceptez ?
Non, au contraire, Pitou, je te remercie. C'est inutile. Il est impossible que je ne reçoive pas une lettre de lui demain matin.
Une lettre de lui ? Dit vivement Pitou.
Et il s'arrêta, comme regardant avec inquiétude autour de lui.
« Eh bien oui, une lettre de lui, » dit Catherine, cherchant elle-même du regard la cause qui pouvait troubler ainsi l'âme placide de son interlocuteur. « Une lettre de lui. Ah, diable !» répéta Pitou, en se mordant les ongles comme fait un homme embarrassé.
« Eh, sans doute, une lettre de lui. Que trouvez-vous d'étonnant à ce qu'il m'écrive ?» reprit Catherine.
« Vous qui savez tout, ou plutôt, ajouta-t-elle à voix basse, à peu près tout.
« Mais je ne trouve pas étonnant qu'il vous écrive, s'il m'était permis de vous écrire. Dieu sait que je vous écrirai moi aussi, de longues lettres même, mais j'ai peur.
Mais peur de quoi, mon ami ?»
Mais que la lettre de monsieur Isidore ne tombe entre les mains de votre père.
De mon père ?
Pitou fit de la tête un triple signe qui voulait dire 3 fois 8.
Comment de mon père ? Demanda Catherine, de plus en plus étonnée. Mon père n'est-il pas à Paris ?
Votre père est à Pisseleu, mademoiselle Catherine, à la ferme ici, dans la chambre à côté. Seulement, monsieur Rénal lui a défendu d'entrer dans votre chambre, à cause du délire, a-t-il dit, et je crois qu'il a bien fait.
Et pourquoi a-t-il bien fait ?
Mais parce que monsieur Billot ne me paraît pas tendre à l'endroit de monsieur Isidore, et que,
pour une fois que vous avez prononcé son nom et qu'il l'a entendu, il a fait une rude grimace, je vous en réponds.
« Ah, mon Dieu !» murmura Catherine, toute frissonnante. « Que me dites-vous là, monsieur Pitou ?»«
Hein, la vérité, je l'ai même entendu grommeler entre ses dents. C'est bien, on ne dira rien tant qu'elle sera malade, mais après, on verra. »
« Monsieur Pitou, » dit Catherine en saisissant cette fois la main de Pitou avec un geste si véhément que ce fut au brave garçon de tressaillir à son tour.
« Mademoiselle Catherine, » répondit-il.
« Ah, vous avez raison, il ne faut pas que ces lettres tombent entre les mains de mon père. Ah, mon père me tuerait !»«
vous voyez bien, » dit Pitou, « c'est qu'il n'entend pas raison sur la bagatelle, le père Billot. »«
Mais comment faire ?»
Hey, « Dame, indiquez-moi cela, mademoiselle. »«
S'il y a bien un moyen. »«
Alors, dit Pitou, s'il y a un moyen, il faut l'employer. »«
Mais je n'ose, » dit Catherine.
« Comment vous n'osez ?»«
Je n'ose vous dire ce qu'il faudrait faire. »«
Quoi, le moyen dépend de moi et vous n'osez pas me le dire. »«
Mais, dame, monsieur Pitou. »
« Ah, fit Pitou, ce n'est pas bien, mademoiselle Catherine, et je n'aurais pas cru que vous eussiez manqué de confiance en moi. »«
Je ne manque pas de confiance en toi, mon cher Pitou, » dit Catherine.
« À la bonne heure, » répondit Pitou, doucement caressé par la familiarité croissante de Catherine.
« Mais ce sera bien de la peine pour toi, mon ami. »
« Oh, si ce n'est que de la peine pour moi, » dit Pitou, « il ne faut pas vous embarrasser de cela, mademoiselle Catherine. »
« Tu consens donc d'avance à faire ce que je te demanderai ?»«
Mais certainement, dame, cependant, à moins que ce ne soit impossible. »«
C'est très facile, au contraire. »«
Eh bien, si c'est facile, et dites,
il faut aller chez la mère Colombe,
la marchande de sucre d'orge,
oui, et qui est en même temps factrice de la poste aux lettres. »«
Ah, je comprends, et je lui dirai de ne remettre les lettres qu'à vous. »
« Tu lui diras de ne remettre mes lettres qu'à toi, Pitou. »«
À moi, » dit Pitou. « Oh oui, je n'avais pas compris d'abord. » Et il poussa un troisième ou quatrième soupir.
« C'est ce qu'il y a de plus sûr. Tu conçois bien, Pitou, à moins que tu ne veuilles pas me rendre ce service. »«
Moi, vous refusez, mademoiselle Catherine, oh, par exemple. »«
Ah, merci, alors, merci. »«
J'irai, j'irai bien certainement, à partir de demain. »
Ah, « c'est trop tard demain, mon cher Pitou. Il faudrait y aller à partir d'aujourd'hui. »«
Eh bien, mademoiselle, soit à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, à partir de tout de suite. »«
Ah, que tu es un brave garçon, Pitou, » dit Catherine, « et que je t'aime. »«
Oh, mademoiselle Catherine, » dit Pitou, « ne dites pas des choses pareilles. Vous me feriez passer dans le feu. »«
Regarde l'heure qu'il est, Pitou, » dit Catherine. »
Pitou s'approcha de la montre de la jeune fille qui était pendue à la cheminée.
« 5h30 du matin, mademoiselle, » dit-il. « Eh bien, fit Catherine, mon bon ami Pitou. »«
Eh bien, mademoiselle,
il serait peut-être temps
d'aller chez la mère Colombe. »«
À vos ordres, mademoiselle, mais il faudrait prendre un peu de potion. Le docteur avait recommandé une cuillerée toutes les demi-heures. »
« Ah, mon cher Pitou, » dit Catherine, se versant une cuillerée du breuvage pharmaceutique et regardant Pitou avec des yeux qui lui firent fondre le cœur, « ce que tu fais pour moi vaut mieux que tous les breuvages du monde. » C'est donc pour cela que le docteur Rénal disait que j'avais de si grandes dispositions à être élève en médecine.
« Mais où diras-tu que tu vas, Pitou, pour qu'on ne se doute de rien à la ferme ?»
« Oh, quant à cela, soyez tranquille. » Et Pitou prit son chapeau.
« Faut-il que je réveille Madame Clément ?» demanda-t-il.
« Oh, c'est inutile. Laisse-la dormir, la pauvre femme. Je n'ai maintenant besoin de rien que... »«
Que de quoi ?» demanda Pitou. Catherine sourit.
« Ah oui, j'y suis, » murmura le messager d'amour, « que de la lettre de Monsieur Isidore. » Et puis, après un instant de silence, «
Eh bien, soyez tranquille, si elle lirait, vous l'aurez, si elle n'y est pas. »«
Si elle n'y est pas ?» demanda anxieusement Catherine.
« Si elle n'y est pas, pour que vous me regardiez encore comme vous me regardiez tout à l'heure, pour que vous me souriez encore comme vous venez de me sourire, pour que vous m'appeliez encore
Votre cher Pitou est votre bonne amie. Si elle n'y est pas, eh bien, j'irai la chercher à Paris.
Oh, bon et excellent cœur, murmura Catherine en suivant des yeux Pitou qui sortait.
Puis, épuisée par cette longue conversation, elle retomba la tête sur son oreiller.
Au bout de 10 minutes, il eût été impossible à la jeune fille de se dire à elle-même si ce qui venait de se passer était une réalité amenée par le retour de sa raison ou un rêve enfanté par son délire. Mais ce dont elle était sûre, c'est qu'une fraîcheur vivifiante et douce se répandait de son cœur aux extrémités les plus éloignées de ses membres fiévreux et endoloris.
Au moment où Pitou traversa la cuisine, la mère Billot leva la tête.
La mère Billot ne s'était pas couchée et n'avait pas dormi depuis 3 jours.
Depuis 3 jours, elle n'avait pas quitté cet escabeau enterré sous le manteau de la cheminée, d'où ses yeux pouvaient, à défaut de sa fille, près de laquelle il lui était défendu de pénétrer, voir au moins la porte de la chambre de sa fille.
« Eh bien, demanda-t-elle, eh bien, mère Billot, cela va mieux, dit Pitou.
Où vas-tu alors?
Je vais à Villers-Cotterêts.
Et que vas-tu y faire?
Pitou hésita un instant. Pitou n'était pas l'homme de l'à-propos.
Ce que je vais y faire, répéta-t-il pour gagner du temps.
Oui, dit la voix du père Billot, ma femme te demande ce que tu vas y faire.
Je vais prévenir le docteur Rénal.
Le docteur Rénal t'avait dit de ne le prévenir que si tu avais du nouveau.
Eh bien, dit Pitou, puisque mademoiselle Catherine va mieux, il me semble que c'est du nouveau.
Soit que le père Billot trouvât la réponse de Pitou péremptoire, soit qu'il ne voulut pas se montrer trop difficile pour un homme qui, au bout du compte, lui apportait une bonne nouvelle, il ne fit pas d'autre objection au départ de Pitou. Pitou passa donc, tandis que le père Billot rentrait dans sa chambre et que la mère Billot se laissait retomber la tête sur sa poitrine.
Pitou arriva à Villers-Cotterêts à 6h15 du matin. Il réveilla scrupuleusement le docteur Rénal pour lui dire que Catherine allait mieux et lui demander ce qu'il y avait de nouveau à faire.
Le docteur l'interrogea sur sa nuit de garde et, au grand étonnement de Pitou, qui cependant mit dans ses réponses toute la circonspection possible, le brave garçon s'aperçut bientôt que le docteur savait ce qui s'était passé entre lui et Catherine aussi couramment à peu près que s'il eût, dans quelque coin de la chambre, derrière les rideaux de la fenêtre ou du lit, assisté à sa conversation avec la jeune fille.
Le docteur Rénal promit de passer dans la journée à la ferme, recommanda pour toute ordonnance que l'on servît à Catherine toujours du même tonneau, et congédia Pitou, lequel réfléchit fort longtemps à ces paroles énigmatiques et finit par comprendre que le docteur lui recommandait de continuer à parler à la jeune fille du vicomte Isidore de Charny. Puis, de chez le docteur, il alla chez la mère Colombe. La factrice demeurait au bout de la rue de Lormet, c'est-à-dire à l'autre extrémité de la ville. Il arriva comme elle ouvrait la porte. La mère Colombe était une grande amie de la tante Angélique, mais cette amitié pour la tante ne l'empêchait point d'apprécier le neveu. En entrant dans la boutique de la mère Colombe, pleine de pain d'épices et de sucre d'orge, Pitou comprit, pour la première fois, que s'il voulait réussir dans sa négociation et se faire livrer par la factrice les lettres de mademoiselle Catherine, il fallait employer, sinon la corruption, du moins la séduction. Il acheta 2 bouts de sucre d'orge et un pavé de pain d'épices. Puis, cette acquisition faite et payée, il hasarda sa demande. Il y avait des difficultés graves. Les lettres ne devaient être remises qu'aux personnes à qui elles étaient adressées, ou tout au moins à des fondés de pouvoir porteurs de procurations écrites. La mère Colombe ne doutait pas de la parole de Pitou, mais elle exigeait une procuration écrite. Pitou vit qu'il fallait faire un sacrifice. Il promit d'apporter le lendemain le reçu de la lettre, s'il y avait une lettre, plus une autorisation de recevoir pour Catherine les autres lettres à venir. Promesse qu'il accompagna d'un second achat de sucre d'orge et de pain d'épices.
le moyen de rien refuser à la main qui étreigne et surtout qui étreigne d'une façon si libérale. La mère Colombe ne fit que de faibles objections et finit par autoriser Pitou à la suivre à la poste où elle lui remettrait la lettre de Catherine, si une lettre était arrivée pour elle. Pitou la suivit en mangeant ses deux pavés de pain d'épices et en suçant ses quatre bâtons de sucre d'orge. Jamais, au grand jamais, il ne s'était permis une pareille débauche, mais, on le sait, grâce aux libéralités du docteur Gilbert, Pitou était riche. En traversant la grande place, il monta sur les barreaux de la fontaine, appliqua sa bouche à l'un des quatre jets qui s'en échappaient à cette époque, et pendant 5 minutes absorba le cours d'eau tout entier sans en laisser tomber une goutte. En descendant de la fontaine, il jeta les yeux autour de lui et aperçut une espèce de théâtre dressé au milieu de la place. Alors il se rappela qu'au moment de son départ, il était fort question de se réunir à Villers-Cotterêts afin d'y poser les bases d'une fédération entre le chef-lieu de canton et les villages environnants. Les divers événements privés qui s'étaient succédés autour de lui lui avait fait oublier cet événement politique qui n'est point cependant sans une certaine importance. Il pensa alors aux 25 louis que lui avait donné au moment du départ le docteur Gilbert pour l'aider à mettre sur le meilleur pied possible la garde nationale d'Aramon. Et il redressa la tête avec orgueil en songeant à la splendide figure que feraient, grâce à ses 25 louis, les 33 hommes qu'il avait sous ses ordres. Cela l'aida à digérer les 2 pavés de pain d'épices et les 4 morceaux de sucre d'orge qui, joints à la pinte d'eau qu'il avait avalée, eussent bien pu, malgré la chaleur des sucs gastriques dont la nature l'avait pourvu, lui peser sur l'estomac s'il eût été privé de cet excellent digestif qu'on appelle l'amour-propre satisfait.